bien ambiance de permanence et de nouveauté dans les premières pages de deux romans coloniaux contemporains, Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras et La jalousie de Rob Grier. Nous, on va essayer de faire une comparaison de la notion de nouveauté à réception, c'est-à-dire pour le lecteur, de l'impression de nouveauté dans les débuts des deux romans. Et donc, de quoi s'agit-il exactement par ce titre ? D'abord, soyons francs, de démarquer cette contribution d'une acception très attendue du terme « nouveau » pour envisager la jalousie de Rob Grier, soit celle d'une nouveauté formelle et technique, entièrement concentrée dans la construction de l'œuvre, les jeux spéculaires qu'elle met en place, la position narratoriale qui la sous-tend. Ensuite, donc, se démarquer, évidemment, de cette analyse attendue. Ensuite, parce que ce qui me semble le plus novateur ici, c'est le défi de l'auteur et son acharnement, derrière une légitime satisfaction de sa démarche extrémiste, son acharnement à supposer le lecteur suffisamment tenace ou intelligent pour maintenir son éveil, malgré la carence d'événements, les descriptions géométriques, les séquences narratives contradictoires. Car on ne peut faire de la jalousie qu'une lecture savante, ou, comme le disait Laurence, ne pas la faire. Le roman, nouveau et contraignant dans son écriture, exige également un comportement d'excellence de la part du lecteur, une vigilance qui, à mon avis, remet en cause son statut, mais c'est un tout autre problème. Est-ce que le lecteur de Rob Grier est encore un lecteur ou un lecteur expérimental ? Or, sans avoir besoin de se référer au schéma Kinner ni aux pratiques théâtrales en matière de scènes d'exposition, il nous paraîtra évident que les premières pages du roman, en tant que seuil, circonscrivent durablement les attentes du lecteur en même temps qu'elles mettent en branle son questionnement et son intérêt. Dans quel état était l'espace avant mon entrée en tant que lecteur qui fait exister le texte, et de quoi ma visite va-t-elle être concomitante ? Quelle tranche de vie me promet l'auteur ? Quel est le programme des réjouissances ? Il s'agirait donc d'observer la manière dont la jalousie déjoue, ou plutôt dérègle, les attentes, et notamment cette attente de l'événement perturbateur, en confrontant sa pratique avec celle d'un autre roman des années 50, qui pourrait a priori en sembler proche, Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. D'ailleurs, l'envie et la jalousie sont aussi des moteurs psychologiques, des plus incisifs dans l'univers durassien, et ces deux romans choisissent un cadre colonial, ce qui nous permettra peut-être dans un deuxième temps, je ne pense pas finalement, d'envisager leur traitement exotique et social, traitement exotique et social du choix colonialiste des deux romans. Donc, on va rester simplement sur la perception du lecteur de ce qu'il y a de nouveau dans ce début des deux romans. Donc, vous avez les trois premières pages du Barrage contre le Pacifique, et on va surtout s'intéresser aux 35 premières lignes, celles qui se démarquent nettement du corps du texte. Le roman de Marguerite Duras est donc de 1950, antérieur à celui de Rob Grier. C'est le troisième de sa carrière, à une époque où sa manière est encore relativement classique, ou du moins traditionnelle. Mais Duras est certainement l'écrivain le moins soupçonnable de complaisance à l'égard de son lecteur, et c'est pourquoi aussi le choix de son roman en confrontation avec la jalousie de Rob Grier m'a paru judicieux. Ce sont quand même deux auteurs reconnus comme difficiles et qui ne facilitent pas la lecture. On se souvient que plus tard, au moment de Moderato Cantabile et du passage provisoire chez Jérôme Lindon aux éditions de Minuit, Duras sera à son corps défendant happé par le label Nouveau Roman, et que seule son absence à Cerisy en 71 mettra un terme définitif à la confusion entre Duras et le Nouveau Roman. On se souvient encore que les suites romanesques et théâtrales du Barrage éclaireront sa dimension autobiographique. C'est une autre histoire également. Pour l'heure, nous ne chercherons dans ce roman que les procédés caractéristiques par lesquels Duras creuse pour le lecteur un lit confortable dans la détermination de l'événement transformateur. Il leur avait semblé à tous les trois que c'était une bonne idée d'acheter ce cheval, même si ça ne devait servir qu'à payer les cigarettes de Joseph. D'abord, c'était une idée, ça prouvait qu'il pouvait encore avoir des idées. Puis il se sentait moins seul, relié par ce cheval au monde extérieur, tout de même capable d'en extraire quelque chose de ce monde, même si ce n'était pas grand-chose, même si c'était misérable, d'en extraire quelque chose qui n'avait pas été à eux jusque-là et de l'amener jusqu'à leur coin de plaine saturé de sel, jusqu'à eux trois saturés d'ennui et d'amertume. C'était ça les transports, même d'un désert où rien ne pousse, on pouvait encore faire sortir quelque chose, en le faisant traverser à ceux qui vivent ailleurs, à ceux qui sont du monde. Cela dura 8 jours. Le cheval était trop vieux, bien plus vieux que la mère pour un cheval, un vieillard centenaire. Il essaya honnêtement de faire le travail qu'on lui demandait, et qui était bien au-dessus de ses forces depuis longtemps. puis il creva. Ils en furent dégoûtés, si dégoûtés en se retrouvant sans cheval sur leur coin de plaine, dans la solitude, la stérilité de toujours, qu'ils décidèrent le soir même qu'ils iraient tous les trois le lendemain à Ram pour essayer de se consoler en voyant du monde. Et c'est le lendemain à Ram qu'ils devaient faire la rencontre qui allait changer leur vie à tous. Comme quoi une idée est toujours une bonne idée, du moment qu'elle fait faire quelque chose, même si tout est entrepris de travers, par exemple avec des chevaux moribonds. Comme quoi une idée de ce genre est toujours une bonne idée, même si tout échoue, lamentablement, parce qu'alors il arrive au moins qu'on finisse par devenir impatient, comme on ne le serait jamais devenu si on avait commencé par penser que les idées qu'on avait étaient de mauvaises idées. Des indices puissants comme l'espacement typographique après la ligne 35 prouveraient d'abord le traitement marginal de ce qui le précède par rapport au corps du texte. Duras ne pratique cet alinéa appuyé à l'intérieur des chapitres que 5 fois dans l'intégralité du roman. En outre, rien dans les brouillons préparatoires ne laisse prévoir ces 35 lignes, ces 5 paragraphes que je viens de lire. Plusieurs épisodes narratifs des chapitres 1 et 2 du roman ont été ébauchés par Duras, comme le prouvent les cahiers de la guerre, puis publié en 2006 par les archives de l'IMEC. Mais ces 5 paragraphes de synthèse qui expliquent la situation de la triade familiale, la mère Joseph-Suzanne, mettent en perspective une forme de changement dans la situation psychologique de cette triade. Donc ces 5 chapitres ont été apparemment ajoutés tardivement par l'auteur comme une sorte d'aide à la lecture, une stratégie pour mettre en suspense le contenu de l'œuvre. Pourtant, paradoxalement, cet incipit explicatif ne remplit que partiellement ses missions. C'est Duras Durail, tout de même, et déjà dans Barrage contre le Pacifique, même si c'est seulement son troisième roman. Ainsi, si l'incipit fait sonner par anticipation le glas pour le cheval, il pourrait à tout le moins, modestement aussi, nous présenter les protagonistes, le lieu, l'époque. Or, ces informations attendues par le lecteur sont éliminées sciemment. Le lieu est mythifié comme un espace isolé, loin du monde, extrême. La datation est absente et la narration lui préfère une chronologie relative, le lendemain ou des durées, 8 jours. Enfin, le texte est truffé de références à la triade, sans clairement isoler les personnages, excepté Joseph et la mère à une brève occasion. Suzanne ne nous apparaîtra qu'en dernier, dans son individualité, à la 3e page. Symboliquement, Duras refuse ou retarde une singularisation des personnages, ajoutant le pronom indéfini collectif « tous » à des endroits où ils pourraient apparaître inutiles et maladroits, ligne 26 qui allait changer leur vie à tous. 4e paragraphe. Elle fait donc en sorte, pour suggérer leur étroite connivence familiale, de maintenir à leur propos le pluriel, voire de les inclure et de les souder dans un ensemble encore plus général, mais ténu, du type exclu du monde. D'ailleurs, les pronoms « on » du texte, ligne 12, 17, 32, 34, pourraient se limiter à un simple emploi personnel par lequel ils ne désignent rien de plus que les 3 personnages principaux. Par compensation avec cet incipit moderne et évasif, nous avons l'activation d'une dramatisation du récit, car tout ici est annoncé bien à l'avance. D'abord la mort du cheval, révélée par la formule brève et peu compatissante « puis il creva », alors que tout le premier chapitre reviendra en arrière et reprendra dans le détail sa lente agonie jusqu'à la page 30, où il respire encore. Donc page 30, il respire encore, or ici nous sommes seulement à la page 9. Mais sa mort est déjà annoncée. Ensuite, c'est la cruciale rencontre du lendemain qui sert de prolepse dans l'avant-dernier paragraphe. La rencontre avec Monsieur Jo est annoncée et c'est le lendemain à Ram qu'ils devaient faire la rencontre qui allait changer leur vie à tous. Avec une charge hyperbolique massive, et cette rencontre avec Monsieur Jo sera l'objet de l'intégralité du chapitre 2. Donc on est bien ici dans une annonce, et cette incipit est une aide à la lecture et une révélation. Un éclaircissement pour les attentes du lecteur. Le cheval est déterminé, on le voit par le démonstratif « ce », et on a parlé de l'ambiguïté des démonstratifs, des déterminants démonstratifs dans la jalousie. Ici, lui aussi, a un comportement équivoque, il peut être à la fois anaphorique, mais de quoi ? Il n'y a pas d'autre phrase avant, ou déictique, par cette manière d'impliquer le lecteur dans la vision qu'a le narrateur et les personnages de la scène. Le cheval est déterminé donc par le ce est indu à cette place. Entre la mort du cheval et la rencontre du lendemain, le lecteur, pourtant privé de repères fiables, trouve de quoi mettre sa curiosité en éveil. Il va y avoir du nouveau qui tranche sur l'ambiance nauséeuse dans laquelle cette famille semble se confiner. Les très nombreuses répétitions du texte mettent en lumière le même conflit entre une situation stable mais dépréciée Et l'élément perturbateur, que ce soit l'achat du cheval, la mort du cheval ou la rencontre avec Monsieur Jo, il y en a trois qui sont proposés par le texte. L'élément perturbateur, qui est guère plus encourageant finalement, dont l'échec programmé fonctionne comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, celle qui anéantit le barrage. On observe effectivement plusieurs cas différents de reformulation durassienne, des reformulations intraphrastiques qui cherchent la surenchère sous le prétexte de la précision, de la rectification, coin de plaine saturé de sel jusqu'à E3 saturé d'ennui et d'amertume. Plus loin, le cheval était trop vieux. Bien plus vieux que la mère, ou encore plus loin, ils en furent dégoûtés, si dégoûtés. À contresens de ces répétitions intraphrastiques qui accentuent l'irisme du texte ou la sensibilité du texte, on trouve des répétitions architectoniques qui servent de matrice à l'ensemble de l'incipit, comme le mot « idée » combiné avec l'épithète « bonne » à la première phrase du roman, puis avec l'épithète « mauvaise » à la fin de cet incipit, et plusieurs fois récurrent dans le texte. Cette idée du cheval, de l'achat du cheval, leitmotiv, est en étroite relation avec la conjonction de subordination « même si », qui instaure un rapport d'opposition et cherche à prouver le paradoxe de la situation. Idée mauvaise, mais idée tout de même. Comment est-ce conciliable ? Il y a donc une leçon à tirer de cet incident qui sera l'achat et la mort du cheval, et c'est ce que ces nombreux « même si » cherchent à faire sentir au lecteur. « Même si » est suivi trois fois dans le premier paragraphe et deux fois dans le dernier d'un constat d'échec. « Même si pas grand-chose, même si misérable, même si de travers, même si lamentablement. » Or, sa présence récurrente insiste aussi ou autant sur la proposition principale qu'il complète et qui dit obligatoirement le contraire. Derrière l'échec apparent, il y a au moins la tentative, le rebondissement, l'ultime sursaut, l'événement déclencheur qui va réveiller la routine et fait espérer la nouveauté pour les personnages comme pour le lecteur. Bien que cet effet d'annonce positive soit donné sur un ton ironique, il n'en invalide pas, pas les vertus transformatrices de l'événement annoncé. Un des rares mots du texte qui n'est pas répété, qui n'entre pas dans ce réseau de réduplication, c'est l'adjectif attribut impatient, ligne 32. Il suggère combien cet incipit s'ouvre, malgré sa nonchalance, sur un état profond de crise. Les personnages jusque-là absurdes ou grotesques dans leur inertie et leur exclusion se retrouvent frustrés et à partir de cette frustration insurmontable, leur coalition va exploser. C'est donc effectivement le démarrage du roman qui aboutira à la mort de la mère et à la libération de ses enfants. Pour autant, si la finalité du texte semble celle de prévenir le lecteur du changement d'attitude des personnages, celle de relever la pulsion psychique et l'impulsion diégétique, la distanciation narratoriale, le ton sans complaisance, l'ironie méprisante nous engluent dans une ambiance nauséeuse, celle des colonies, certainement pour Duras, celle qu'elle a vécue dans les années de sa naissance, aux années 30. Emploi admirable du pluriel, caricature par la virée consolatrice. Alors, l'emploi admirable du pluriel, c'est celui de Moribond. J'ai tellement insisté à la lecture que j'ai pensé que vous l'avez bien vu, ligne 19. Par exemple, avec des chevaux moribonds, ils n'en ont quand même acheté qu'un de cheval. Et là, en le mettant au pluriel, on a vraiment l'impression que quand même, c'est la chkoumoune quand même. Hein. On leur donnerait encore de l'argent, ils en rachèteraient à nouveau un qui serait en état de grande fatigue. Donc, impossibilité de s'en sortir. Et puis, la caricature de cette virée de consolatrice à rame, le cheval est mort, on en est triste, on est désappointé. Donc, allez hop, offrons-nous une petite cuite à Rame, qui est à 20 km plus loin. Je dirais pour conclure sur Duras que le lecteur se croit dans la permanence alors qu'il vient d'entrer dans la nouveauté. Donc c'est le climat de la permanence, le climat colonial de la permanence qui englue les personnages, et pourtant, insidieusement, la nouveauté s'est instaurée par l'achat du cheval, la mort du cheval, la préfiguration de la rencontre avec Monsieur Jo et de la mort de la mère. Peut-être le contraire, au début de la jalousie, on en arrive à l'objet de notre intérêt. Au début de la jalousie, le lecteur toujours conciliant lorsqu'il entame sa lecture sera au contraire frappé par l'instantanéité du diégétique. L'adverbe « maintenant », bon, je ne vais pas reprendre toute l'analyse, mais couplé comme il se doit avec le présent, le place automatiquement dans une situation de nouveauté. « Maintenant » s'oppose à un « avant ». Répété au deuxième alinéa, puis à la sixième ligne du deuxième paragraphe, à la page 10 de la jalousie, la récurrence donc des maintenant entraîne une succession d'effets qui viendraient prouver la linéarité chronologique et la rapidité avec laquelle peut-être les mouvements s'enchaînent. C'est ce que le lecteur est censé croire. D'ailleurs, à ces situations présentées comme présentes, font face des allusions à un temps antérieur avec lequel elles entretiennent des liens. Le féca était ailleurs auparavant, certainement sur la terrasse, au deuxième alinéa. La conversation du déjeuner avec Christiane, l'époque où la balustrade exposait une peinture uniforme, la récente plantation des bananiers du côté de la terrasse. Tout devrait donc concourir à accentuer l'impression, pour le lecteur évidemment, l'impression que les choses changent dans ce début de roman. Or, l'adverbe « maintenant » n'est pas associé avec du narratif, mais avec du descriptif, et justement, cela change tout. On pourrait dire que « maintenant » n'est pas un adverbe dénoncé, mais dénonciation. Il ne se met pas en contemporanéité avec l'événement, mais avec le regard du narrateur, comme si derrière lui, il y avait un verbe sous-entendu comme « je vois ». Ça n'est pas « maintenant il se passe ça », c'est « maintenant je vois cela », « maintenant je vois cela ». Je constate. Hors de cette vision, rien ne s'accomplit, au moins dans ses premières pages. Au-delà, il faut constater que 5 chapitres ou séquences du roman débutent par l'adverbe « maintenant » plusieurs fois, donc présent en début d'alinéa et en début de chapitre. Et le premier et le dernier chapitre s'intitulent exactement pareil, c'est-à-dire « maintenant l'ombre du pilier ». Annulant donc par ce jeu la chronologie des faits qu'un lecteur naïf ou très entêté quand même chercherait tout de même, et prouvant le caractère irrésolu et inguérissable du sentiment aigu qu'exprime le titre du roman, la jalousie, qu'elle soit attribuée au mari ou pas, j'y reviendrai. À la fausse impression de nouveauté correspond une réalité permanente, celle de l'indéfectible jalousie du voyeur et de l'indécidable adultère de A. Enfin, pour moi, il ne fait aucun doute qu'elle le trompe. Et nous pourrions mettre à profit notre mixité relative pour trancher la question une bonne fois pour toutes. Donc, je propose un petit sondage à la fin de l'exposé. Qui pense que A et Franck font des cachotteries dans la grande ville? Ah oui, pardon. Oui, mais quand même. Le deuxième élément marquant de cet incipit est donc le fait descriptif, comme seul effet de suspense à se mettre sous la dent. Mais là encore, la description n'appellera pas la transformation. Ce pourrait être le cas avec l'harmonie géométrique du premier paragraphe, cet instant, hein, à cet instant précis de coïncidence. Donc il y a, je voyais que Jean-Claude soulignait tout à l'heure cette dernière phrase du premier paragraphe, hein, il y a une coïncidence des lignes à un moment donné, et donc ça crée l'illusion que quand cette coïncidence va devenir une discordance, il va enfin se passer quelque chose. Donc le descriptif pourrait quand même amener à de l'action. Pourtant, ça ne va pas du tout être le cas, hein. Donc les maintenants successifs ne sont pas additifs, mais n'entraînent pas un lien de cause à effet. Le point de rupture, enfin le point de rupture que serait la symétrie des ombres ne va pas être entretenue par la révélation du deuxième paragraphe. La coïncidence est rompue. La division en deux parties égales s'est décalée dans l'intervalle, mais la suite de la description ignore la disharmonie qui vient de se produire. D'ailleurs, A ne regarde pas vers la fenêtre pour constater combien l'équilibre inaugural de ce premier paragraphe vient de se rompre. Et si cette description a donc tout de même valeur de démarrage narratif, c'est sur un plan tout symbolique. C'est ce que suggère Gabriel Sade lorsqu'il souligne « les formes géométriques occupent de façon notoire une place très importante dans la jalousie ». Oui, c'est pourquoi il devient impossible de les négliger. Non, en arguant, comme certains lecteurs l'ont fait, de l'ennui suscité par leur retour systématique dans le texte. C'est aller beaucoup trop vite en besogne. Leur retour systématique constitue au contraire un appel à l'intelligence du lecteur. Il s'agit, on le voit, d'accomplir un travail de lecture qui puisse être, en aval, aussi novateur que le travail d'écriture l'a été en amont. On serait bien de cet avis à propos des déterminants et des adjectifs numéraux à certains moments du texte. Je plonge dans l'apéritif de midi qui se situe entre les pages 46-52, la première occurrence d'un apéritif à midi. Et j'envisage les déterminants et adjectifs numéraux. Le nombre de verres servis puis distribués, puis visibles sur la table, le nombre de gorgées bues par les uns et les autres, il y a bien 3 verres à un moment donné, donc il y a bien quelqu'un quand même qui devrait boire ce verre et qui ne le boit pas, parce que justement c'est lui qui va aller à l'office chercher le seau à glace manquant et le réclamer au boy. Donc le nombre, hein, si on trace, si on suit les chiffres, si on fait le compte, il y a bien quelqu'un, et il y a bien quelqu'un, si on suit les opérations, et notamment le à 2 mètres de la jalousie, il y a bien quelqu'un qui s'est avancé à 2 mètres de la jalousie, puisque avant, on ne voit rien, à partir de 2 mètres, on y voit. Or, on ne doit pas traverser le bureau pour aller à l'office. Il y a donc bien quelqu'un qui est rentré dans le bureau, est allé à l'office, s'aperçoit en revenant que la porte qui était au départ entrebâillée est maintenant ouverte, ben oui, c'est lui qui est passé une première fois, qui l'a ouverte, qui a effectivement avancé jusqu'à 2 mètres de la jalousie pour voir et espionner ce qui se passait derrière. Et donc c'est lui qui, comme étonné, dit « Oh tiens, cette fois-ci la porte est ouverte, donc allons-y, à nouveau, rentrons, on ne voit rien, je m'approche de 2 mètres, et là je vois la scène. » Donc il y a bien quelqu'un, à un moment donné, qui a intérêt à espionner, alors peut-être un voyeur véritablement, hein, mais à espionner et inviter à la demeure, et qui a intérêt à observer A et Franck. Donc tout ceci, le texte le tisse ingénieusement, et un lecteur vigilant saura le repérer. Une autre jolie citation donc, de Gabriel Sade qui vient de confirmer cette histoire du nombre. Au lieu de se laisser compter C-O-N-T-E-R, le lecteur sait, S-A-I-T, compter, comparer, reconnaître et bâtir par lui-même ses propres itinéraires de lecture. Mais je serais moins d'accord donc avec le crédit oraculaire qu'il accorde aux formes géométriques dans la citation précédente. Elles sont rarement un indice narratif, mais vaguement un indice psychologique de la névrose de celui que je considère comme l'époux, et assurément un indice symbolique. Car les descriptions sont si précises que l'on n'y voit rien. C'est le pamphlétaire Jean-Philippe Domecq, dont j'apprécie beaucoup le livre, qui dit ça, qui a publié donc quelque chose sur Homme grillé en 2005 à l'Esprit des péninsules, qui dit « car l'on n'y voit rien, ni en profondeur, ni en surface, ni entre les deux. Le lecteur se perd dans les détails par manque de distance et par manque de direction. Distance et direction que devrait prendre le narrateur en regardant alentour et qu'il ne prend pas, signe peut-être de son obsession, incapable donc de prendre de la distance ou d'orienter sa vision. » Du coup, le lecteur est plongé dans le même aveuglement que le narrateur personnage. Fatalement, ce sont certainement les mêmes, comme encore l'un des indigènes qui scrute à un moment donné une eau boueuse. Si la description ne prend donc pas une fonction réaliste ou dramatique dans l'œuvre, elle serait donc arrangée du côté symbolique. Jean Ricardou, qui tentait en confrontant méthodologiquement les pratiques du nouveau roman, de réunir les tempéraments et les écritures inconciliables des différents acteurs de ce pseudo-courant littéraire depuis sa naissance, il parvient mal, souvent, il parvient à peu près, il me semble, dans l'ouvrage 73 pour la collection Écrivains de toujours, donc paru au Seuil. Et il dit ceci, donc, à propos de la description. Puisqu'elle est astreinte au linéaire, la description est vouée au digressif. Mais par ce qu'il nomme un vertige de l'exhaustif, le récit se trouve irrémédiablement enlisé dans cette description de nature digressive. Il faut donc pour le lecteur que soit elle signifie par elle-même, au-delà de son aspect superficiel et superfétatoire, le mot plaît scié à robe grillée, soit elle signifie par comparaison, confrontation, avec une description d'apparence similaire qu'il lira, que le lecteur lira un peu après. Or, c'est ce qu'il se passe dans La Jalousie. Nous avons systématiquement soit une description qui a une fonction symbolique, soit une description qui, dans le jeu de réseau des transformations, des séquences descriptives, fait sens. On pourrait effectivement donc trouver du sens dans cette description inaugurale. Le trait d'ombre du pilier forme avec les dalles de la terrasse, avec les angles de la terrasse, des triangles qui illustrent le triangle amoureux dont l'intrigue reprendra le schéma selon l'interprétation de Morissette. La coïncidence des traits à cet instant précis où le narrateur observe la terrasse manifeste son indécision face à l'alternative où il se retrouve, soupçonner ou non son épouse, basculer ou non dans la monomanie. Je peux toujours trouver du symbolique dans cette géométrie spatiale. Davantage, évidemment, c'est la reprise des mêmes éléments de l'intrigue, des mêmes séquences descriptives tout au long du roman, avec d'infimes parfois, mais plus souvent de copieuses métamorphoses ou inversions, qui constituent le sens même du roman. L'écriture aventureuse, le viol de l'identité qui rompt avec la tradition, annule le pouvoir de décision du narrateur, supprime l'illusion référentielle et place l'intelligence du lecteur au cœur du dispositif. Ce qui constitue évidemment de la nouveauté romanesque, si et seulement si le lecteur n'a pas été découragé auparavant par la permanence dans laquelle les éléments narratifs et descriptifs se figent, compte tenu de l'incessant renouveau diégétique que l'auteur leur fait subir. Donc, juste une lecture, page 206, où, en effet, ce terme « nouveau » apparaît et donc illustre bien ce que je voulais dire. A demande ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui sur la plantation. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a toujours que les menus incidents de culture qui se reproduisent périodiquement dans l'une ou l'autre pièce, selon le cycle des opérations. Comme les parcelles sont nombreuses et que l'ensemble est conduit de manière à échelonner la récolte sur les 12 mois de l'année, tous les éléments du cycle ont lieu en même temps, chaque jour, et les menus incidents périodiques se répètent aussi tous à la fois, ici ou là, quotidiennement. Il me semble qu'on ne peut pas, dans le métaroman que fait Rob Grier, on ne peut pas mieux comprendre sa démarche que là-dedans, sur le plan évidemment fonctionnel. J'avais dit que je ne voulais pas faire de la narratologie, finalement j'y aboutis. Hein, donc c'était pas le but, mais forcément. La deuxième idée, donc le deuxième objectif, c'était de voir la vision colonialiste du roman, profiter de Duras et Rob Grier, parce que quand même Rob Grier écrit ça en 57, Duras a vécu en Indochine, donc Linhart via Goldman, via Lukács expose cette vision colonialiste, et je pense qu'on est vraiment tous d'accord pour y trouver de l'intérêt. C'est vrai que il y a en effet un instant de rupture, un point de rupture, donc un renouveau dans la vision colonialiste de la dénonciation du racienne, ça c'est évident, et de Rob Grier. Mais ensuite c'est la manière dont on divise les personnages entre le narrateur, donc le lecteur, donc l'auteur, qui serait du côté du passé, et au contraire Franck, avec ce costume ridicule, voilà, avec cette débandade évidente dès qu'il a grossièrement et virilement écrasé le mille-pattes. Donc il ne me semble pas être justement le partisan d'une conciliation avec la négritude, et donc un mouvement de soulèvement du peuple noir. Donc là vraiment ça coince à ce moment-là. C'était là que j'aurais voulu aboutir. Donc la vision sociale anti-bourgeoise, oui, parce qu'il y a caricature, c'est évident que et son mari et son amant sont confortablement caricaturés et se retrouvent dans des face-à-face avec les noirs qui prennent l'avantage du coup, hein. Donc oui, caricature du monde bourgeois, mais absolument pas adhésion entre A et Franck à l'anticolonialisme. Ça semble usurpé. D'ailleurs, Franck le dit lui-même à un moment donné. Enfin, on ne peut pas laisser un noir conduire un camion. Il y a un mépris pour les noirs qui sont évidents chez Franck. Et c'est en cela, justement. Peut-être qu'il est caricaturé et qu'il apparaît comme un héros, pas l'héros. Oui, donc je m'arrête là et on passe à la discussion si on nous reste un peu de temps. Oui, merci.